Qu'il l'eût cru, avec Des idées plein la terre. Une émission qui parle de terre crue, mais pas que.
Qui l'eût cru, c'est notre rendez-vous avec l'association Des idées plein la terre. C'est une émission qui parle de terre crue, mais pas que. Et ça, on en a l'habitude maintenant avec Mélanie, par exemple, qui nous a rejoint. Bonjour Mélanie.
Bonjour James, bonjour tout le monde.
Et tu es venue accompagner aujourd'hui d'Adeline, Adeline Houssac, qui est une des fondatrices de l'association. Bonjour Adeline.
Bonjour tout le monde.
Alors, aujourd'hui, vous nous proposez de parler des femmes dans l'éco-construction et de refaire un petit focus également donc, sur le projet de l'association Des idées plein la terre.
Tout à fait, il y a beaucoup à dire sur ce sujet et j'espère qu'on va couvrir pas mal d'éléments pendant toute l'émission.
Alors justement, le bâtiment, c'est un secteur largement dominé par les hommes en tout cas. C'est ce qu'on se dit, c'est un fait.
C'est ce qu'on se dit et c'est ce qu'on voit aussi dans les statistiques et ça c'est par rapport au bâtiment de manière générale. Par contre dans l'éco-construction on voit qu'il y a une proportion de femmes qui est beaucoup plus importante que dans le bâtiment classique conventionnel. Et donc nous avec les Des idées plein la terre on a mis cet élément là dans notre projet associatif de faire valoir les femmes dans l'éco-construction de manière générale.
D'ailleurs,
avec tout un sujet.
On rappelle quand même qu'à l'origine de cette association, ce ne sont que des femmes.
Tout à fait, 3 cofondatrices.
Ouais.
Et aujourd'hui, on est 6 membres actifs de l'association, et je dirais même 6 membres actives, puisqu'on est 5 femmes pour un homme.
Oui. Bon, on le salue quand même, Adrien.
on l'aime beaucoup.
Heureusement qu'il est là aussi, on est d'accord.
Ah oui, bien sûr, c'est bon. Tout à fait. Mais heureusement que les femmes aussi sont là dans cette association.
Ce que je veux souligner, c'est que vous acceptez de travailler avec toutes les personnes qui portent ce projet avec beaucoup de valeur et d'envie.
Carrément. L'idée, c'est pas quand on est une femme et quand on est féministe, et même dans l'éco-construction, c'est pas de dire qu'on est contre les hommes et pour les femmes, et c'est là où il y a des différences. Mm-hmm. À dire qu'on est pour les femmes dans l'éco-construction, c'est faire changer de modèle, c'est faire changer certaines choses, certaines petites choses, mais certaines grandes choses aussi.
Oui.
Et c'est ça qu'on a mis dans notre projet associatif, en tout cas.
Voilà, donc on va en parler un petit peu, bien sûr. Donc, cette place des femmes, tu l'as bien expliqué, elle prévaut plus donc, dans des associations comme Des idées plein la terre et dans l'éco-construction. Ça veut dire qu'il y a encore une grosse marche à franchir là, pour que les hommes viennent aussi dans l'éco-construction.
Alors, il y en a déjà des hommes qui sont dans l'éco-construction. Le point, c'était surtout de dire qu'il y a plus de femmes dans l'éco-construction que dans le bâtiment de manière générale. C'est plutôt ce point. Là, aujourd'hui, les chiffres de la Fédération française du bâtiment, ils parlent et disent que aujourd'hui, en 2022, en tout cas, c'est les derniers chiffres, il y avait seulement 12,9% des femmes qui étaient représentées dans la construction de manière générale, alors que sur les formations en éco-construction, bien souvent, on atteint la parité. Donc, il y a plus de femmes dans l'éco-construction que dans la construction de manière générale. C'était plutôt ça le point. Voilà.
Mais ça tend quand même à progresser la présence des femmes aussi dans la construction.
Bien sûr, mais comme dans beaucoup d'autres métiers, et c'est pour ça. Tant mieux, ouais.
Alors, si on repart un petit peu plus en arrière, si on part dans un contexte historique, la femme était aussi présente à l'époque.
Tout à fait. Et ça, c'est le travail d'une femme qui s'appelle Marilène Patoumatis, qui, elle, est préhistorienne et qui parle justement de l'homme préhistorique est aussi une femme. C'est l'intitulé de son livre. Et où elle raconte dans son livre que, en fait, on a invisibilisé les femmes dans tous les domaines, y compris dans la construction, mais aussi dans la chasse. Il y avait aussi des femmes chasseuses. Et ça, on le dit pas, on le dit moins. En tout cas, parce que quand on va chercher, on va chercher des hommes principalement, et donc on ne va pas regarder s'il y a des femmes ou non. Donc ça c'est son point. Il y a aussi un très bon podcast qu'elle a réalisé qui est en lien sur Radio France pour voir justement un petit peu tout ce phénomène d'invisibilisation. Et nous, ce qu'on aime aussi dire chez Des idées plein la terre, c'est qu'on peut le faire en fait.
Oui, pas que ça d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Faut quand même être honnête. Hein. Moi, je suis plutôt du genre à défendre aussi la cause féminine. Alors, on va parler un peu des femmes donc qui font Des idées plein la terre. À commencer par Adeline hein, qui est avec nous. Donc, Adeline, merci encore une fois d'être là. Tu es cofondatrice et salariée donc chez Des idées plein la terre. Tu es architecte de formation. Tu t'es formée sur le terrain aussi avec des professionnels en éco-construction dans le cadre de chantiers participatifs, des formations courtes multithématiques. Dans ton cheminement, tu vas nous raconter un peu justement comment c'est venu tout ça.
Et ben en fait oui. Donc dans mes études d'architecture, je me questionnais déjà pas mal par rapport au côté technique. En tout cas, on était à plutôt faire de la théorie et moi je recherchais vraiment le lien avec la matière. Et du coup, après les études, je suis partie en voyage à vélo pendant 8 mois et j'ai fait un chantier participatif à Copenhague. Donc, c'est la première fois que j'ai mis les mains dans la terre. Et c'était donc mon premier chantier. Et quand je suis revenue en France, j'ai fait 1 an de chantier participatif et j'ai rencontré pas mal de femmes sur mon chemin. Et notamment 2 personnes qui m'ont pas mal marquée et inspirée, en tout cas dans mon cheminement en éco-construction. C'était Marie-Pascale Allais de l'association de Terre Paille Assou, qui est plutôt basée dans le Périgord, et Nidia Solis de l'association Femmes Debout, qui elle est en Midi-Pyrénées et qui s'est elle-même formée au sein du collectif Mud Girl sur l'île de Vancouver au Canada. Et à vrai dire, ça c'est pour citer deux femmes que j'ai croisées sur
c'était
mon chemin.
C'était le démarrage, quoi.
Oui, ouais. Exactement.
T'en as croisé d'autres depuis, quoi. Ouais. Je tiens à préciser, femme debout, c'est un beau jeu de mots parce que c'est femme, on pourrait dire debout, voilà, bien droite sur ses pieds, mais c'est femme debout, la boue, comme les idées plein la terre, quoi. C'est les mains dans la boue, quoi.
C'est ça.
Ok. On peut parler également des personnes qui t'ont accompagné dans ce projet.
Oui, il y avait Amélie, du coup, qui est cofondatrice aussi et bénévole au sein des Idées Plein la Terre. Elle est autoconstructrice. Elle a construit donc sa maison en BTP. On a souvent le réflexe d'utiliser en tout cas cet acronyme pour définir le bois terre paille. C'est un mode constructif. Et elle est également cofondatrice et salariée de l'association Chapeau et Bottes, qui est du coup une association cousine à des Idées Plein la Terre et qui prône en tout cas le matériau terre plutôt en Gironde, donc côté sud-ouest. Et elle s'est également formée à la maçonnerie en terre crue pour développer en tout cas les activités au sein de l'association, mais aussi développer une activité de maçonnerie. Et elle s'est formée en Bretagne dans un organisme qui s'appelle Noria et compagnie. Et on a aussi dans l'association, en tout cas, Valentine, qui, elle, est également bénévole et architecte de formation et qui est partie également en Bretagne. Tout le monde va en Bretagne, décidément. Et qui s'est formée donc à la maçonnerie terre et qui travaille aujourd'hui dans une structure qui s'appelle Maison en Terre. Et ils font de la maçonnerie en terre crue là-bas.
Oui, ouais. On a déjà eu l'occasion d'en parler avec Mélanie de la Bretagne parce qu'effectivement, là-bas, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus développé qu'ici, plus avancé peut-être, j'irais pas dire développé, mais plus avancé.
C'est ça, en tout cas il y a un patrimoine, mais comme on a le patrimoine chez nous, mais il y a beaucoup plus de professionnels en tout cas qui sont compétents, formés sur le sujet, et il y a aussi des organismes de formation sur ce territoire, et c'est pas ici pas encore hyper développé, on va dire.
Alors revenons un petit peu sur ce lien très fort entre les femmes et l'éco-construction. À quoi c'est dû?
Alors, il y a plusieurs explications, il n'y en a pas une seule, mais on en a relevé un peu plusieurs avec les différents échanges en préparant l'émission. On s'est un peu reposé la question de pourquoi on atteint 50% de femmes dans les formations dont parlait Adeline, justement. De manière générale, on s'est dit et redit que culturellement, les femmes ont plus l'habitude de prendre soin. Donc, tout ce qui est écologie, prendre soin de l'environnement, prendre soin des matériaux, prendre soin, ça, c'est quelque chose qui, culturellement, est déjà un peu plus intégré par les femmes. De manière générale, elles sont plus garantes, plus responsables de se prendre soin là. Ça peut être un peu l'explication principale. Après, au niveau de l'éco-construction, on est sur des matériaux qui sont plus naturels, qui sont peut-être plus féminins aussi, en tout cas qui sont vus comme plus féminins, qui donnent un intérêt un petit peu plus aux femmes qu'aux hommes, et qui permet, enfin voilà, c'est plus naturel aussi, donc c'est peut-être plus facile pour les femmes d'y accéder. Dans toutes les formations, de manière générale, enfin il y a aussi ce truc très sexiste. Finalement, qui existe, que le bâtiment c'est pour les garçons, et les filles, je vais faire un raccourci, mais les filles vont être coiffeuses et les garçons vont être maçons. C'est très sexiste, mais en tout cas c'est encore très présent aujourd'hui. Donc ça peut être une autre explication. Et après, sur comment ça se passe quand une femme devient maçonne et quand une femme a déjà été, alors maçonne ou même juste de manière générale dans l'éco-construction, mais comment est-ce que ça se passe sur le chantier, il y a quand même beaucoup de freins encore qui sont liés à cette petite place des femmes. On l'a vu à plusieurs reprises, c'est la question des toilettes, par exemple. On a une grosse problématique sur la question des toilettes. Alors ça, c'est une anecdote, mais c'est une anecdote qui, finalement, a quand même son importance. Parce que quand on ne peut pas aller aux toilettes pendant toute une journée, c'est quand même assez compliqué pour plein de raisons différentes.
Et c'est du concret sur le terrain.
Et c'est du concret sur le terrain. Il y a les ports de charges lourdes aussi qui peuvent être... On a Le bâtiment aujourd'hui, il est fait pour des hommes qui font 1m80 et à peu près 80 kg. Alors c'est pas le cas de tous les hommes, mais c'est encore moins le cas des femmes parce qu'on n'a pas la même morphologie de manière générale. En tout cas, elle s'est pas développée comme ça, l'évolution n'a pas été comme ça faite. Donc on a des charges qui sont beaucoup plus lourdes pour des femmes. Donc dans l'éco-construction, de manière générale, ce qui se passe souvent, c'est que les femmes se solidarisent entre elles et s'associent pour pouvoir porter des charges, ce qu'on voit un peu moins dans la construction basique. On s'entraide, il y a beaucoup plus d'entraide, et ça c'est un peu plus peut-être un peu plus culturel au niveau féminin. Il y a toute la notion de faire attention à son corps aussi, de faire attention à son propre corps qui là est aussi plutôt féminin. Alors si on va à l'extrême opposé, c'est parce que les femmes sont regardées que sur leur corps, donc il faut bien qu'elles y fassent attention. Mais si on prend le bon de ça, eh ben on a ce soin là au corps qui est peut-être plus prégnant chez les femmes que chez les hommes, sur les chantiers en tout cas. Mais du coup, ça re-questionne pas mal de choses. Ça re-questionne l'ergonomie des outils. Aujourd'hui, les outils sont pensés pour des grosses mains d'hommes et de petites mains de femmes qui prennent des truelles. C'est pas forcément la même chose. Donc, il y a des adaptations qui sont faites par les femmes sur les chantiers.
Ça devrait quand même arriver sur les chantiers, puisqu'on sait que les magasins de bricolage s'y sont beaucoup mis. Ils ont travaillé justement avec des femmes pour faire des outils adaptés à la condition féminine.
Carrément. Et plus il y aura de femmes dans la construction, et plus on pourra adapter les outils. Enfin, c'est un peu c'est l'offre et la demande, quoi. Si, personne ne dit rien, finalement, ça, on n'améliore jamais rien, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là, pour dire ce genre de choses, que oui, il y a aussi des femmes dans la construction et on en veut de plus en plus. Mais du coup, ça passe par tout un tas d'outils à adapter, d'échafaudages à revoir, de pas mal de choses.
Disons que les femmes qui arrivent aujourd'hui dans la construction, elles essuient un peu les plâtres, c'est le cas de le dire. il faut penser, moi j'ai vu des exemples, des reportages, là, je m'intéresse un petit peu à la question, et oui, quand on voit une femme dans une grue, parce que c'est de plus en plus commun, à 50 mètres de hauteur, et puis qu'à un moment, elle a besoin d'aller aux toilettes, la question des toilettes est vraiment là, elle est là. Il n'y a pas ce qu'il faut, quoi.
C'est ça, et un retour de Valentine, par exemple, qui du coup fait des réunions de préparation de chantier, par exemple, elle se retrouve la seule femme autour d'une table, quand il y a tous les artisans qui sont autour de la table, elle se retrouve à être la seule femme, se pose la question des toilettes, et là on se dit, en fait, il faudrait peut-être faire deux toilettes. Ah bah oui, c'est une bonne idée de faire deux toilettes, parce que est-ce qu'il y aura des femmes, est-ce que vous serez la seule femme? Et en fait, même si c'est la seule femme, elle a besoin d'avoir des toilettes, quoi. Et est-ce qu'il faudrait pas faire deux toilettes, parce que c'est quand même vachement... Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui viennent. Et en plus de la question des toilettes, il y a aussi la question qui vient juste avec, c'est la question des vestiaires aussi, de repenser la mixité dans les vestiaires et de voir comment est-ce qu'on peut faire deux vestiaires différents, parce qu'aujourd'hui ça n'existe quasiment pas sur les chantiers. Quand il y a des femmes sur les chantiers, bien souvent elles doivent soit se changer dans des toilettes qui sont pas forcément très propres, soit pas se changer du tout. Donc comment est-ce qu'on revoit ça? Voilà, c'est une autre amélioration à faire pour réintégrer en tout cas les femmes dans la construction de manière générale et aussi dans l'éco-construction.
Il y a des notes positives, il y a quand même le travail des femmes qui est reconnu sur les constructions et sur l'éco-construction.
Je sais pas s'il est hyper reconnu, mais en tout cas oui, nous on a des bons retours. On sait que les maçonnes avec qui on travaille sont super contentes. J'avance un peu en disant ça, mais elles sont super contentes d'être dans la co-construction. Donc ça c'est une première reconnaissance, mais effectivement c'est quand même un beau métier. On a une anecdote de Valentine, par exemple, qui est en train de faire un enduit en terre, et il y a un groupe d'hommes marocains qui sont des sous-traitants du chantier sur lequel elle travaille, qui viennent la voir et qui lui disent « Ah, mais c'est super beau ce que tu fais, bravo, c'est vraiment super beau ». Et voilà, donc il y a quand même des bons retours et de l'inspiration, même au-delà du genre, il y a aussi de l'inspiration.
Oui, et puis ça prouve encore une fois que le savoir-faire, il n'a pas de sexe.
Je suis d'accord. En tout cas, on ne met pas les enduits. Les enduits, on les met avec les mains. Et ça, homme ou femme, globalement, on en a.
On a les mains qui sont faites pareil. Hein. Alors, si on doit conclure par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je crois que, dans un premier temps, vous voulez nous orienter vers des parcours, des exemples, des choses qui vous ont vous-même aussi inspiré, peut-être.
Effectivement, comme initiative, il y a le workshop Terre, Femmes et Savoir-Faire qui est organisé par les grands ateliers à côté de Lyon et qui a pour objectif d'agir contre l'invisibilité des femmes dans les métiers du bâtiment, tout en valorisant le matériau de terre qui est aujourd'hui donc un matériau de construction qui se développe en tout cas. Et j'ai eu l'opportunité, moi, d'y participer cette année. Et c'était vraiment intéressant. Il y a à la fois des intervenantes qui viennent pour partager, en tout cas, leurs pratiques, mais aussi des jeux de rôle par rapport à des situations aussi qu'on aurait pu rencontrer dans des situations de chantier, des ateliers, chantiers participatifs et tout ça. Donc, c'est vraiment par le collectif où il y a des échanges, des transmissions. Et ça, c'était vraiment une initiative intéressante. Et en 2025, ils transforment un peu ce workshop pour faire une formation nomade. Et on va directement dans les ateliers des intervenants, donc c'est aussi assez pertinent.
C'est des workshops qui durent combien de temps en général ?
Là, c'était sur une semaine, donc 4 jours, on changeait d'intervenante tous les jours et la dernière journée était ouverte au grand public avec plutôt des conférences, enfin des formats plutôt échanges.
Ok, très bien. Il y a des choses qu'on peut écouter aussi.
Ouais, il y a des super podcasts qui s'appellent Construction Plurielle. Ça a été réalisé par une association qui s'appelle Oikos et ça met en avant le parcours de professionnels, de femmes professionnelles dans la construction et la rénovation. Écologique. Et elles parlent de leur récit de vie, elles racontent des anecdotes, elles racontent pourquoi elles en sont arrivées là, quels matériaux elles utilisaient, pourquoi. Et c'est fait avec un franc-parler qui est assez touchant. Donc je vous conseille, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais ils sont assez parlants.
Il y a du son, mais il y a aussi de l'image.
Et il y a aussi de l'image avec la série de vidéos qui s'appelle Être femme et bâtir, qui a été réalisée par la coopérative COP et BAT, et avec deux maçonnes terre qui sont assez inspirantes, qui sont Maureen Coberlé et Anaïs Charton, qu'on voit dans le premier épisode. Mais il y a aussi plein d'autres femmes qui parlent d'autres moyens de rénover et de prendre soin. Mais maçonnes terre crue, ouais, il y a Anaïs Charton et Maureen Coberlé qui sont pas mal inspirantes.
Une exposition aussi que vous allez peut-être accueillir là incessamment.
Effectivement, donc c'est l'exposition Terre de bâtisseuse. Elle a été créée par Alizé Cuny et Claire Dichat. Et c'est une exposition itinérante qui présente 17 portraits de femmes travaillant la terre crue. Donc elle a été créée par l'association donc du même nom et elle propose en tout cas d'autres ateliers, enfin d'autres formats de sensibilisation, des projections, débats, des ateliers, chantiers participatifs, tout ça autour toujours du matériau terre, mais aussi par rapport à la question du genre dans la construction.
Pour cette exposition, il suffit juste de suivre des idées plein la terre sur les réseaux.
C'est ça, on espère pouvoir l'accueillir en 2025. Et en 2025 aussi, on aura de nouveau l'événement qui s'appelle Bâtir des Demains, qui est une journée qui est organisée par le collectif Bio et Géosourcé en Grand Est. Donc c'est un collectif qui fait la promotion des matériaux bio et géosourcés. Nous, on est membre actif de ce réseau-là. Et la prochaine journée aura lieu à Pont-à-Mousson, au mois de mai prochain. Et donc, on va mettre en lumière les femmes, avec notamment une femme, alors on ne peut pas dire qui c'est, petit teaser, mais on aura une femme très inspirante et très compétente à la tête de cette journée, enfin en tout cas à l'inauguration de cette journée, et plein d'autres surprises pendant la journée. Donc tout ça, que ce soit pour l'expo, pour cet événement et pour toutes les autres choses, il suffit de nous suivre sur les réseaux. On vient d'ouvrir notre réseau LinkedIn.
Ah ouais.
Donc LinkedIn, Facebook et très bientôt notre site internet.
Alors vous qui nous écoutez actuellement sur RGR ou sur Radio Primitive, vous aussi, vous avez envie d'en savoir un peu plus, on a éveillé votre curiosité là, venez les rencontrer. C'est où des idées plein la terre ?
Alors nous, on a un local qui est situé au 16 rue Pierre Maître, dans le même bâtiment que l'association Les Bons Restes, mais on ne fait pas de permanence, donc il vaut mieux prendre contact avec nous sur les réseaux d'abord et pour qu'on puisse ensuite proposer des temps d'échange et de rencontres.
Voilà, donc on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Merci beaucoup Adeline, merci beaucoup Mélanie bien sûr, et on se donne rendez-vous le mois prochain.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, à bientôt.